Docteur Jacques Limbrozeau, bonjour.
Bonjour, bonjour Guy.
Vous êtes président de la DIAM et je suis heureux de vous retrouver pour notre émission mensuelle consacrée à la gériatrie de manière générale. Et puis, vous êtes accompagné aujourd'hui de Shana Sidbon, bonjour.
Bonjour.
Shana Sidbon, vous êtes diététicienne et vous êtes membre de la DIAM. La DIAM, je le rappelle, c'est l'association d'aide pour le maintien à domicile des personnes âgées, c'est ça,
exactement.
Parfait. Alors, on va revenir, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté notre émission précédente, pourquoi consacrer une émission à l'alimentation de la personne âgée, car c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui.
Oui, a priori, on pourrait penser qu'il y a des domaines médicaux qui devraient être abordés en premier, mais en fait, on va parler de l'alimentation et de la dénutrition, parce que c'est un sujet fondamental, et s'alimenter, ça semble aller de soi, mais ça ne va pas du tout de soi. L'alimentation, on est tous bien d'accord, c'est une nécessité, hein, il faut manger pour vivre, mais c'est aussi un plaisir, et qui doit le rester, malgré toutes les restrictions qu'on pourrait à tort imposer, jusqu'à un âge avancé. La sagesse des nations s'y est pas trompée. On va citer, il y a très longtemps, Brillat Savarin, qui disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Bon, c'était une forme d'expression. Plus près de nous et plus sérieusement, il y a Margaret Mead, qui est une anthropologue, qui disait quelque chose de beaucoup plus important. Qui disait qu'avant de changer les habitudes alimentaires, ce qui est d'ailleurs extrêmement difficile, il fallait comprendre ce que manger veut dire. Et c'est là que va se situer une partie de notre intervention. Bien sûr, depuis plusieurs milliers d'années, le judaïsme était en avance sur son époque, puisque à travers notamment les lois de la cacheroute, il a su développer chez les juifs une dimension à la fois comportementale, mais aussi spirituelle de la prise alimentaire au sein de ce qui est le plus naturel, le plus normal, le plus banal, le plus prosaïque, qui est de se nourrir. Et donc, on rejoint bien l'idée de fond qui est que s'alimenter, c'est bien plus que manger. Encore un point, je suis médecin, mais mon but n'est absolument pas de médicaliser l'alimentation. L'alimentation, je l'ai déjà dit, est un plaisir, pardon, et c'est même un art dans certains cas, un art culinaire, et elle doit rester à la fois un plaisir et un art, c'est à cette condition que ça va marcher. Enfin, et c'est la dimension, on va dire, médicale de l'émission, la menace qui nous guette dans nos sociétés dites de consommation, où on a bien l'impression qu'il y a des apports alimentaires quasiment illimités, c'est en fait, chez les personnes âgées, mais pas seulement chez les personnes âgées, parfois aussi chez les enfants, la menace d'une épidémie silencieuse qui avance, qui est bien présente, et qui va mettre, on va le voir un peu plus tard, la vie en danger du fait de la dénutrition.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel peut-être pour nos éditeurs, pour savoir à quoi correspondent les dénominations, glucides, lipides, protides.
Oui, vous avez raison, parce que d'abord c'est important, et puis comprendre, je dirais, la qualité des aliments qu'on va prendre est nécessaire. En plus, je rappelle que maintenant, vous l'avez tous remarqué, sur tous les emballages alimentaires, il y a la mention détaillée de la part de calories, de glucides, de protides et de lipides. Voilà donc ce qui fait qu'il faut savoir à quoi ça correspond. Alors on va être très simple. Je ne ferai pas d'ailleurs de cours devant Madame Sidbon, qui en connaît plus que moi en matière de diététique. Les glucides, ce sont d'abord les aliments à goût sucré, crème glacée, pâtisserie, biscuits secs, jus de fruits. Donc finalement, on appelle ça les sucres d'action rapide. C'est la première partie. La deuxième catégorie de glucides, ce sont les pâtes, le riz, les pommes de terre, la semoule aussi, qui sont des glucides d'action lente et qui sont beaucoup plus intéressants parce que ce sont des bonnes sources d'énergie et de réserve d'énergie. Alors, le plus souvent, chez la personne âgée, mais pas seulement chez la personne âgée, bien entendu, on privilégie les sucres d'action rapide du fait d'une part de leur sapidité, parce que le goût s'altère chez la personne âgée, et on vient souvent à préférer, ou quasiment dans certains cas pathologiques, à ne consommer que des aliments très sucrés. Deuxième catégorie, les lipides. Les lipides sont les graisses, c'est-à-dire les huiles, le beurre, la margarine, et il en faut. Il en faut certes en quantité modérée, mais il en faut. Et un régime sans graisse du tout, comme on en parle déjà, ou parfois, n'a aucun fondement, ni logique, ni médical. Troisième catégorie, et une des plus importantes, ce sont les protides, les protéines. Ce sont grosso modo, très schématiquement, les constituants de nos muscles. Alors, on en trouve dans la viande rouge, la viande blanche, dans les charcuteries de toutes sortes, les œufs, et les poissons de la sardine à la sole, en passant par le hareng, bien sûr, hein, ainsi que toutes les conserves de poisson, conserves de thon, conserves de sardines, conserves de maquereau. Donc, c'est des sources très importantes d'apport protéique. Enfin, et il ne faut pas l'oublier, on y reviendra d'ailleurs un peu plus tard, on va dire en mode des laitages qui ont deux avantages. D'abord, ils apportent une certaine ration de protides, moins importante, il est vrai, qu'avec la viande ou les poissons ou les œufs, mais ils apportent quand même une ration de protides significative et aussi et surtout, ils apportent du calcium qui est essentiel pour nos os. Donc, pas question de s'en passer.
Alors, à l'heure des régimes de toutes sortes, sans gluten, sans lactose, vegan, comment la personne âgée peut s'y retrouver ?
Bon, on va parler de ces régimes, on va dire, idéologiques ou irrationnels, mais auparavant, il y a un message qu'on va d'ailleurs répéter plusieurs fois au cours de l'émission, un message qui doit être entendu, qui doit être répété et qui doit être surtout retenu, c'est qu'avec l'âge, il n'y a aucune indication d'un régime quelconque, notamment restrictif. À part, bien sûr, quelques exceptions, comme l'insuffisance cardiaque décompensée ou l'insuffisance rénale avancée. L'essentiel chez la personne âgée est de savoir et de pouvoir maintenir son poids. Ni maigrir, ni grossir. Et surtout, de consommer tous les jours une ration suffisante, significative, de protides, de protéines, c'est-à-dire de viande, je l'ai dit sous toutes ses formes, des œufs et... Oublions tous définitivement le cholestérol dans le jaune d'œuf. Ça n'a aucune importance, surtout à ces âges. Et enfin, de consommer aussi du poisson. Donc, pas de régime, surtout pas de régime restrictif. Une ration quotidienne, au moins une fois par jour, sinon deux fois par jour, de protéines. Alors, un mot du diabète qui est fréquent, bien sûr. Et je souligne que ce sont les sucres rapides, les sucres de la gourmandise, les gâteaux secs, les pâtisseries, les glaces, qui sont proscrits ou tout au moins doivent être réduits. Mais que les protéines de l'alimentation n'influent pas du tout sur le contrôle de la glycémie, donc elles doivent être pouvoir consommées de façon tout à fait régulière et tout à fait libre. Une fois qu'on a, je dirais, retenu ce message, vous comme moi avons lu dans les journaux ou vu dans des émissions de télévision ou lu aussi sur les réseaux sociaux, qu'il y a toute une série de régimes plus ou moins raisonnables, plutôt moins que plus d'ailleurs, ou plus ou moins fantaisistes, plutôt plus que moins. Vous avez parlé d'une part des régimes sans gluten et sans lactose. Ceux-là ont un réel fondement médical quand ils sont basés sur un diagnostic validé et prescrit par un médecin. Ça, c'est une nécessité médicale qui va améliorer le patient qui doit se soumettre à ces régimes. Mais il y a, on l'a déjà dit plus haut, une dimension un peu idéologique de l'alimentation. Et effectivement, c'est là que se niche l'idéologie actuelle dans des régimes qui font la bonne part aux aliments uniquement crus, aux régimes végétariens, végétaliens et même vegan, qui sont d'ailleurs des sources de carences en fer et de vitamines, notamment de vitamine B12. Et puis tous les régimes d'exclusion qui consistent à manger un jour de ça, un jour des pamplemousses, un jour de la viande et un jour je sais pas trop quoi d'ailleurs. Et puis aussi il y a des régimes qui favorisent le jeûne intermittent. Toutes sortes de modes d'alimentation qui nous paraissent, je veux dire, sur le plan médical, sur le plan de la bonne santé et sur le plan de la raison de base, inadaptés. Je rappelle que nous sommes des omnivores, comme d'autres animaux, et il convient de manger raisonnablement de tout.
Alors donc en gériatrie, le problème est la dénutrition de la personne âgée ?
Oui, la dénutrition de la personne âgée est une épidémie silencieuse, mais une épidémie bien réelle, et c'est bien le propos essentiel de cette émission. Alors bien sûr, elle est parfois visible quand il y a une perte de poids significative. Et je rappelle qu'une perte de poids de 2 kilos en un mois est déjà un signal d'alarme qu'il faut reporter à son médecin pour qu'il s'en enquière et qu'il prenne des mesures. Plus généralement, une perte de poids de 5% en un mois ou même de 10% en 6 mois traduit alors cette fois-ci une dénutrition avérée, inquiétante. En fait, il faut rappeler un élément de base, c'est que les personnes âgées n'ont parfois plus la force de faire leurs courses, parfois plus l'envie de manger de la viande, c'est assez fréquent, ou même parfois, malheureusement, du fait de revenus insuffisants, ils vont se rabattre sur les aliments qui sont peu chers, qui sont les pâtes, les pommes de terre et les sucreries, aux dépens de la viande et du poisson qui sont plus chers. Mais je rappelle que 2 œufs équivalent déjà à la prise de 100 grammes de viande ou 100 grammes de poisson. Et là, je dirais, il s'agit d'une source intéressante de protéines et bien sûr peu coûteuse en protéines de bonne qualité. Enfin, chez les patients qui souffrent de maladies chroniques, comme l'insuffisance respiratoire, comme l'insuffisance cardiaque ou même l'insuffisance rénale, il y a une augmentation des besoins nutritionnels et donc là aussi un risque certain de dénutrition. Ça, c'est la face émergée de l'iceberg, l'amaigrissement, les conditions d'alimentation ou de mauvaise alimentation. Et ça, c'est la partie. Mais il y a une partie de la plus importante de l'iceberg qui est immergée et qui est la dénutrition protidique qu'on ne voit pas. Et je vais prendre un exemple très simple pour me faire comprendre. Avec l'âge, peu à peu, sous l'effet des modifications du métabolisme, la graisse va silencieusement, va insidieusement remplacer les muscles. On va se retrouver finalement à un certain âge, à un poids qui est à peu près identique au précédent, mais où les muscles ont laissé la place à la graisse. Et on parle, c'est un mot un peu savant, mais il faut le connaître, on parle de sarcopénie, c'est-à-dire de perte musculaire chez des sujets qui ont conservé un poids normal et qui se trouvent parfois même en surpoids, mais c'est un surpoids à base de graisse et pas de muscles, malheureusement. Et pour illustrer le propos le plus simplement possible, imaginons que nous sommes formés ou comparables à un mur formé de briques en pierre bien solide. Ça, c'est, je dirais, ce qu'on a élaboré pendant notre croissance et pendant l'âge mûr. Et ces briques, qui sont notre charpente, nos muscles, les muscles des bras, les muscles des cuisses, les muscles des jambes qui nous permettent de marcher, d'être bien stable, de bien tenir debout, ben ces muscles, sous l'effet du vieillissement, sous l'effet du vieillissement, sans crier gare, vont peu à peu, tous les jours, insidieusement, on va dire même secrètement, disparaître. Et ces briques sont remplacées par des briques en carton. Alors c'est vrai que l'ensemble n'est pas modifié, il y a toujours la même charpente, le poids est stable, mais comme on peut l'imaginer, si on remplace des briques de pierre par des briques de carton, la qualité, la solidité de l'édifice est compromise. Et un jour, en cas d'infection, en cas d'intervention chirurgicale ou d'autres événements médicaux, la dénutrition qui s'est installée ne nous permettra pas de lutter contre ces événements médicaux parce qu'on ne va pas pouvoir fabriquer les anticorps nécessaires ou bien parce que finalement on va avoir des troubles de la marge, des troubles de la stabilité parce que nos muscles ont peu à peu fondu sans qu'on se rende compte. Voilà, ça c'est le souci du médecin, mais c'est aussi le souci de la personne âgée et doit être aussi le souci de sa famille. Et même si l'appétit vient parfois à manquer, il faut, je dirais, s'y tenir. Et il faut absolument essayer de prévenir cette dénutrition, car la récupération est souvent aléatoire, sinon extrêmement difficile. Enfin, l'exercice physique régulier est aussi important, car il permet d'entretenir, je dirais, la masse musculaire, sans forcément compenser les pertes, mais il est essentiel. Mais il ne va pas remplacer une alimentation adaptée qui est indispensable, mais là, je répète que l'exercice physique a aussi l'avantage d'augmenter un petit peu l'appétit, ce qui est un bon événement.
Alors, docteur Jacques Limbroso, donnez-nous un exemple d'aliment à bonne valeur nutritive.
Alors, on va parler du lait parce que c'est le plus accessible, c'est un produit naturel, sans additifs ni conservateurs. Et d'ailleurs, si nous sommes tous ici sur Terre, en particulier grâce à notre maman, c'est parce que nos mères nous ont alimentés dès la naissance avec une alimentation quasiment exclusive à base de lait. Et là, je vais donner des éléments que j'ai empruntés à Madame Lacroix, qui est diététicienne nutritionniste. Alors, on va parler d'une part des glucides. Les glucides, c'est les sucres. 100 millilitres de lait, 100 millilitres de lait apporte environ 5 grammes de glucides. C'est du lactose. Et dans certains cas, c'est vrai que la personne âgée, en raison d'une insuffisance enzymatique, ne supporte pas cet apport lacté du fait d'une incapacité à métaboliser le lactose. Auquel cas, on peut, je dirais, cuisiner le lait sous forme de béchamel, sous forme de flan, sous forme de purée. Et à ce moment-là, la tolérance du lait sera tout à fait convenable. Les protides, il y a environ 3 grammes de protides pour 100 ml de lait. C'est une source de protéines qui n'est pas aussi importante que celle de la viande, des œufs ou du poisson, mais un peu comparable à celle d'un plat de lentilles, par exemple, et ce sont des protéines de bonne qualité. Les lipides, les graisses, alors il y a le lait demi-écrémé, qui est le bouchon bleu, et puis le lait entier, avec 3,6 grammes de matière grasse pour 100 ml de lait, c'est un bouchon rouge. L'important pour ce qui est du lait, c'est qu'il qu'il apporte d'une part ces éléments nutritifs, mais aussi qu'il apporte une certaine saveur, une certaine sapidité qui est parfois appréciée. Et l'idéal serait de consommer environ un bol de lait par jour et un yaourt. Mais là, je suis peut-être trop optimiste. Enfin, n'oublions pas quand même dans le lait le calcium, 100 grammes pour 100 millilitres. Et un bol de lait, c'est 30% de nos besoins quotidiens en calcium. Et enfin, le lait, c'est un apport calorique grâce aux protides, aux glucides et aux lipides d'environ 50 calories pour 100 millilitres. Voilà. Donc le lait, pour ceux qui l'acceptent et qui le supportent, une bonne source de protéines, mais qui ne remplace pas les autres protéines animales.
Alors maintenant, venons-en à l'expérience de terrain. Nous accueillons aujourd'hui Mme Shana Sidbon, diététicienne, la diététicienne de l'ADIAM, qui est la seule structure d'aide à domicile de fournir aux personnes âgées ce service pourtant essentiel. Mme Sidbon, donnez-nous un aperçu de votre action sur le terrain et de vos expériences en la matière.
Oui, alors déjà, donc comme vous l'avez dit, je suis diététicienne nutritionniste donc au sein de l'ADIAM. Je suis venue donc à l'ADIAM parce que je me suis rendu compte d'un problème concernant la personne âgée en matière de nutrition. Beaucoup de personnes âgées ne peuvent pas venir à mon cabinet par incapacité physique ou tout simplement par méconnaissance de l'existence de ce genre de lieu. Et j'ai donc ressenti une détresse. Souvent, nos anciens ne se nourrissent pas correctement. L'ADIAM m'a contactée il y a 2 ans pour aider à pallier justement à ce problème. Mon rôle, il consiste en 2 actions principales. Une, évaluer les besoins des personnes âgées, et ensuite, former le personnel de l'ADIAM. Pendant ces 2 années, j'ai rendu visite 1 mardi sur 2 aux personnes âgées, et j'ai pu constater donc un manque d'informations et de connaissances de leur propre pathologie. Par exemple, les personnes âgées sont souvent sujettes aux fausses routes, à la constipation, à la déshydratation, et ne savent pas du tout, voire pas beaucoup, remédier à ces problèmes, alors qu'il y a des astuces très simples et très efficaces. Ma venue chez les personnes âgées est nécessaire pour évaluer leurs besoins. Lors des visites, j'apprends à connaître la vie du patient, son état général, ses habitudes alimentaires, et voir regarder leur réfrigérateur. Tout ça pour poser donc un diagnostic diététique. Ce diagnostic y permet une meilleure alimentation. Une fois ce diagnostic établi, donc je propose une mise en place d'outils comme des affiches simples, claires, lisibles chez le patient. Et comme il y a un roulement au niveau du personnel, ils peuvent toujours avoir accès à ces affiches qui sont toujours chez la personne âgée. Ces affiches sont très utiles pour le personnel de l'ADIAM. Si ce personnel n'est pas formé, malheureusement elles ne sont pas assez efficaces à l'élaboration des repas. Voilà, ma seconde tâche est donc de former ce personnel 1 mardi sur 2 et de lui donner les principes de base de nutrition. Ce personnel est formé d'infirmiers, d'aides-soignants et d'aide à domicile. Cette formation, elle permet de répondre à leurs interrogations et de mettre en évidence les futures difficultés auxquelles ils seront confrontés. La formation, elle est extrêmement utile pour les aides à domicile qui n'avaient aucune connaissance ou pas beaucoup de connaissances en matière de nutrition et ce sont pourtant elles qui sont à l'origine de repas de la personne âgée à domicile. Elles préparent le repas du matin, du midi et du soir et parfois du goûter. Il faut savoir que la personne âgée n'a souvent plus d'appétit, comme l'a dit Dr Lombroso, une alimentation déséquilibrée et c'est un des rares plaisirs qu'il leur reste. Elles aiment le sucre et n'aiment plus forcément la viande. Cette nourriture doit donc rester savoureuse, mais respecter leurs besoins nutritionnels. La formation, elle est variée. Il y a autant de pathologies que de patients. Et donc, il a fallu des thèmes de formation. Ces thèmes de formation, nous les avons choisis selon les besoins du personnel et après avoir effectué une enquête sur les différentes pathologies des patients pris en charge. Je sensibilise l'aide-soignante à l'équilibre alimentaire chez la personne âgée, à la prise en charge du diabète, à son besoin d'hydratation, notamment surtout en prévision des canicules pour qu'elle ne soit pas prise au dépourvu, à l'hypertension artérielle et à ne pas passer à côté de dénutrition d'un patient. J'essaie de faire en sorte que l'aide à domicile soit plus compétente et que nous puissions éviter des points de non-retour alimentaire comme l'amaigrissement musculaire, on en a parlé, puisqu'elle peut être très sévère, donc comme vous l'avez dit, chez la personne âgée, et parfois, même jamais, c'est très difficile de récupérer ce muscle. Pour élaborer les formations, je me sers de mon expérience au cabinet, de l'étude de documentation gériatrique et de l'aide de médecins spécialistes. Les formations donc doivent être complètes, simples et synthétiques, d'où ma décision de créer différentes affiches sur les sujets évoqués. Alors je ne peux pas vous montrer ces affiches, mais imaginez un imagier accompagné d'une explication simple, Par exemple, lorsque nous évoquons les conseils nutritionnels pour éviter l'apport en sel, l'affiche montre les sources de sel de notre alimentation, comme la charcuterie, le pain, le fromage, les plats cuisinés, les produits fumés et pourquoi pas de la boutargue. La marche à suivre pour éviter les excès comme saler faiblement à la cuisson, cuisiner en utilisant des condiments, oignons, ail, échalotes, les herbes pour donner du goût. Et ne jamais mettre de sel à table, limiter le fromage et éviter les plats cuisinés. Voilà un exemple d'affiche. Donc les aides à domicile, elles voient leur travail simplifié, elles ont moins de doutes, elles se sentent moins seules. Et nos anciens, les personnes âgées, elles sont mieux accompagnées.
Merci, Chana Sidbon. Docteur Jacques Lambroso, peut-être un mot de conclusion.
Oui, d'abord, je veux remercier Madame Sidbon parce que c'est une partie importante de la prise en charge de la personne âgée, je dirais même capitale. Et en plus, elle le fait de façon professionnelle, donc bravo et merci pour elle. Alors, c'est vrai qu'on a parlé que d'une petite partie du domaine de l'alimentation. On n'a sûrement pas épuisé le sujet. Mais je répète qu'en dehors des cas particuliers, donc de pathologies et de prescriptions médicales strictes, j'ai eu le plaisir, l'avantage d'annoncer une bonne nouvelle à tous ceux qui nous écoutent, c'est que chez la personne âgée, il n'y a aucune raison de se soumettre à un régime restrictif. Au contraire, il faut bien penser à maintenir son poids, ni maigrir, je l'ai dit, ni grossir, hein, et surtout d'enrichir systématiquement les repas avec la prise de protéines, c'est-à-dire une fois par jour ou deux fois par jour dans le meilleur des cas, en y associant toutes les sortes de viandes, tous les types de poissons, les œufs et aussi les laitages. Et éventuellement aussi certains légumes secs, je l'ai dit, comme les lentilles qui apportent une petite ration de protéines et qui sont facilement, qui sont digestes et qui sont facilement acceptées. Ça, c'est le message essentiel. Je voulais...